Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Une affaire de gestes, mais aussi de patrimoine, la céramique nous colle au pot ici, au pays de Diolfi. L'association Patrimoine, Mémoire et Histoire a décidé de lui consacrer une grande exposition à l'été 2022. Et en préambule de cette manifestation d'envergure, elle organise, dans le cadre de la Biennale de Sillon, deux rencontres le week-end du 23 et 24 octobre à la Halle de Diolfi. Nous accueillons à cette occasion Marie-Claude Jeune, coordinatrice de l'événement, ainsi que Nadine Fournier-Soubéran, une adhérente de l'association. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
La grande exposition, qui s'étalera sur un mois, du 15 juillet au 15 août 2022, entend aborder la céramique en tant qu'aventure humaine entre, je cite, « tradition et renouveau ». Les deux jours de rencontres prévus ces 23 et 24 octobre à la Halle se présentent comme une ébauche à la grande exposition, puisqu'elles auront trait tant à l'histoire de la céramique qu'à ses perspectives. Organiser de tels rendez-vous qui consacrent la céramique, nous, c'est un projet qui anime l'équipe de l'association depuis 2017. Et donc justement, ma question, c'était qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu, là, cette année, faire cet événement ?
Alors, c'est dans une certaine logique d'une des missions de PMH, dont Nadine pourra peut-être rajouter des choses. À quoi Nadine pourra rajouter des choses. En fait, ça faisait un petit moment. Moi, je suis dans l'association depuis 5 ans. Voilà, je faisais partie du conseil d'administration et j'entendais parler d'un certain nombre de projets d'exposition, dont celui-ci. Je pense qu'il y avait eu une tentative dans les années 2016-2017 qui n'avait pas abouti. Et c'est à la fin de 2019 que Bernard Delpal, qui est le conseiller histoire de PMH, secrétaire de l'association, m'a fait venir et m'a demandé si je voulais m'en charger. J'ai accepté avec plaisir, mais avec une certaine angoisse quand même, parce que premièrement, je ne suis pas delphitoise et deuxièmement, je connais mal l'histoire de la céramique. Mais je trouvais que l'enjeu était quand même suffisamment important pour que j'accepte ce pari et cette, je dirais oui, c'est une sorte de pari, vraiment. En fait, ce qui était un petit peu difficile dans ce sujet, c'est que on a une maison de la céramique qui a été précédée par la maison de la terre et que déjà des expositions historiques
ont été faites à ce sujet.
Avaient eu lieu. Donc il fallait faire autre chose. Alors autre chose, c'est difficile de ne pas passer par l'histoire. Et on s'est dit, on va aborder la question en travaillant sur l'humain et la figure du potier. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, j'ai accepté ce pari de préparer effectivement une exposition qui aura lieu l'an prochain. Et ce qui nous paraissait important, on va y revenir, c'était de faire une sorte d'introduction. Parce que la céramique à Diolfi est quand même assez réputée, mais peut-être pas suffisamment hors des frontières de la Drôme. Et donc, ça, je m'avance peut-être sur quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste, mais voilà.
Et justement, donc ces rencontres dont vous parlez, là, qui se tiendront, je le rappelle, le 23 et le 24 octobre à la Halle de Diolfi. Donc vous avez invité des ethnologues, il y a aussi des directeurs de musées, il y a des céramistes bien sûr, et comme vous l'avez précisé, qui viennent pas forcément tous du territoire de Diolfi-Bordeaux. Quelle image alors vous avez cherché à donner à la céramique à travers ces rencontres ?
Alors ce qui nous semblait important, c'était effectivement de capter un peu l'attention des gens, enfin du milieu artistique et artisanal sur ce qui se passait à Diolfi. Et PMH, enfin moi peut-être je peux te repasser la parole, mais PMH s'attache vraiment à ces questions, comment dire, à ces sujets qui font l'histoire du territoire de Diolfi et du pays de Diolfi, Bordeaux, etc. Et ça me semblait, quand on regarde par exemple sur internet la céramique à Diolfi, effectivement on tombe sur la maison de la céramique, mais je trouve qu'on ne dit pas assez tout ce qui s'y passe et tous ces jeunes qui s'y installent, etc. Donc c'était un petit peu dans cette idée-là de revenir sur une histoire qui était profondément importante et ancrée dans l'histoire du territoire de Diolfi et de montrer la situation aujourd'hui.
Voilà. Puisqu'il s'agit de parler à la fois donc, de l'histoire, mais aussi des perspectives de la céramique, donc, que ce soit pour ces deux rencontres, mais aussi pour l'exposition que vous prévoyez, que vous organisez. Et du coup, pour en revenir à cette exposition là, qui va durer un mois, hein, donc du 15 juillet jusqu'au 15 août, est-ce qu'il y aura d'autres activités proposées en parallèle de l'exposition?
Il y a déjà une exposition qui sera vraiment liée à l'exposition à la Halle, c'est une exposition des archives Coursange. En fait, l'usine Coursange qui a été créée en deuxième moitié du 19e siècle, a une activité extrêmement importante et a vraiment suscité, je dirais même des vocations, a été vraiment un lieu de création et un lieu de vente de la poterie, de la connaissance de la poterie extrêmement important. Et bon, cette faïencerie a fermé en 2008. Ça a été très, très dur pour le territoire de Diolfi, mais bon, il fallait arrêter. Bon, pour des raisons, il y avait une crise, enfin bref, une crise générale de la céramique, de la concurrence étrangère, chinoise, espagnole, etc. Donc, ça a fermé. Et il reste des archives, et des archives extrêmement importantes. Donc, j'ai pu contacter la descendante du directeur Delmas, qui a été pendant longtemps directeur de la faïencerie, qui a des archives. Et à partir de ces archives qui ont été étudiées par Bernard Delpal, donc historien, il y aura une exposition au château de Poète Laval pendant deux mois quasiment, du 1er, je crois, ça sera 1er juillet au 31 août, d'accord, et qui travaillera sur les archives, photos, dessins, etc.
Et est-ce qu'il y aura un fil directeur à cette exposition? Alors, mis à part la céramique, bien sûr, est-ce qu'il y a eu un angle précis sur lequel vous avez voulu l'aborder?
Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a souhaité, à travers effectivement l'approche historique, qui est absolument nécessaire, l'agrémenter effectivement d'approches sociales, donc dans l'exposition. Là, je parle plus précisément sur l'organisation sociale au 19e, parce que le 19e a été vraiment une période phare de la poterie traditionnelle à Diolfi, et une approche plus sociale, économique et surtout ethnologique. Et ce qui nous a semblé extrêmement important, c'est ce que aussi j'ai déjà dit, axer ça autour de la figure du potier. Quelle est la personnalité du potier qui a quand même fait l'histoire de la céramique. Et donc le potier et tous les métiers comme estampeur, comme tourneur, bien évidemment, où il y a eu des personnalités très fortes, même jusque dans les années 60, des tourneurs qui étaient extrêmement importants et qui allaient d'atelier en atelier pour tourner les pièces pour les potiers. Voilà, donc essayer d'insister sur tous ces métiers.
Et la société, en fait, fonctionnement global,
absolument,
de la société à cette époque-là.
Voilà. Et de l'organisation sociale, parce qu'il y a eu une certaine organisation sociale au 19e, que peut-être on revoit aujourd'hui, parce qu'il y a des tentatives de la part de jeunes céramistes de se réorganiser pour avoir plus de poids. Donc, c'est intéressant de voir comment les choses se prolongent. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il nous a semblé extrêmement important, et c'est pour ça qu'on a invité deux personnalités le premier jour sur l'histoire, qui sont Patricia Carlier et Isabelle Chavanon, qui sont l'auteur de deux rapports extrêmement passionnants et très sérieux sur l'histoire de la terre vernissée qui a fait quand même la réputation de Diolfi.
Donc sur l'histoire, vraiment axée sur l'histoire de la céramique à Diolfi.
À Diolfi, absolument.
Donc justement, je voulais vous poser une question à ce sujet, parce que le pays de Diolfi donc, est connu pour avoir entretenu la tradition de la céramique au fil des siècles. Donc depuis sa création, depuis sa première apparition à l'époque gallo-romaine,
absolument,
si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Et est-ce qu'à ce titre, on peut parler d'une culture de la céramique qui soit vraiment propre à Diolfi ou au pays de Diolfi?
Alors, oui, en ce qui concerne ce qu'on appelle la terre vernissée, c'est-à-dire c'est ce qui fait la caractéristique de la poterie traditionnelle, les couleurs jaunes, vertes et noires aussi. Bon, y a vraiment une tradition, mais en même temps, je crois qu'il y a eu des tas d'influences aussi. Et on sait très bien que dans les années 20, l'arrivée d'un peintre, à l'époque, qui s'est mis à la céramique, qui était Étienne Noël, ça a été un moment extrêmement important de redynamique, je dirais, de métier de potier. Mais on garde, il y a toujours cette permanence, et c'est ça que je trouve intéressant aussi, et qu'on essaiera de dire par des objets, cette permanence des formes. Quand on voit des pièces gallo-romaines et qu'on voit des pièces aujourd'hui, traditionnelles, hein, je pense, voilà. Alors, le renouveau, c'est autre chose, c'est... On pourra en parler.
Voilà. Et à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'à travers la céramique, on peut découvrir une histoire de Diolfi ? Et si oui, comment ?
Alors, est-ce que tu veux répondre là-dessus ?
Si, on peut dire que l'histoire de la céramique, par exemple, au 19e, il y a une rue très typique à Diolfi, par exemple, qui est la rue des Raymond, où d'un côté, vous aviez à droite les industries textiles et à gauche, vous aviez les potiers. Et ça, c'est pratiquement unique parce que ça représentait au niveau social toute l'activité diolfitoise. Hein.
Et même, ça a donné, si vous voulez, lieu à une typographie, une typologie spécifique
à la ville.
Au pied du plateau des Rouvières, c'était les potiers parce qu'ils avaient les caves dans lesquelles ils pouvaient mettre, entreposer leur matériel, etc. Et à droite, quand on file sur Nuance, c'était les industries textiles avec la présence de la rivière, enfin de la petite rivière du Faux, qui permettait d'alimenter les moulins, etc. Donc c'est vrai que ça a donné une configuration, je pense, bon, d'une part une histoire qui est quand même importante auprès des diolfitois, eux-mêmes, et puis sur la configuration même, l'urbanisme, on peut dire, c'est peut-être un bien grand mot pour Diolfi, mais du village. Quoi.
Oui, dans l'urbanisme, par exemple, dans un village de cette taille, c'est très étonnant de voir soit des hôtels particuliers dans la rue du Bourg, soit des grosses maisons qui étaient en fait les logements des patrons du textile, par exemple. Oui.
Voilà, donc c'est vrai que ça permet d'enrichir encore la connaissance pour...
D'avoir à la fois une approche du territoire et de cette pratique.
J'ai repéré aussi que des gens qui arrivent à Diolfi, qui s'installent à Diolfi, qui ne sont pas que des retraités, il y a des jeunes en activité, enfin on va dire des quarantenaires en activité, disent combien il est important de revenir sur cette histoire. Et ça m'a rassurée aussi sur l'intérêt venu d'ailleurs, on va dire.
Et pour l'intérêt des diolfitois, je reviens sur l'exposition du textile qui a eu lieu il y a quelques années.
Organisée également par
PMA, c'est mon mari qui était le référent, Jean-Marc. Et alors, c'était très, très, très étonnant de voir le nombre de diolfitois qui sont venus à l'exposition et combien tous étaient interpellés et avaient des tas de souvenirs à raconter parce que dans toutes les familles, il y avait quelqu'un qui avait travaillé dans les textiles.
Absolument.
Et pour revenir à la céramique, hein, parce que c'est finalement sans vouloir mettre court à votre référence au textile. Là, donc, il y a aussi l'idée hein, pour sortir un peu des sentiers battus, finalement, pour parler de la céramique aussi de manière un peu nouvelle. C'est ce qu'est le pari que s'est lancé PMH. Qu'est-ce qui caractérise alors la création contemporaine de ce qui a pu se faire durant les siècles derniers?
Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y a deux céramistes en particulier à Diolfi dans les années 80 qui ont commencé à s'orienter plutôt vers la sculpture. Je pense à Wolfhart qui est parti maintenant à Saint-Quentin-la-Poterie ou bien à Franck Girard. Donc, effectivement, sortir de la céramique utilitaire pour passer à l'œuvre unique. Donc ça a été d'une part à l'œuvre décorative et puis après à la pièce unique. Et ça a été un moment extrêmement important. Je pense dans les années, fin des années 90, début des années 2000.
C'est dû à quoi
Alors je pense qu'il y a aussi la formation. qui est prodiguée par la Maison de la Céramique depuis 2010 maintenant, avec à la fin des 9 mois de stage, un diplôme, vraiment. Donc ça, c'est très important. Et je pense qu'à la fois, moi, c'est une évolution générale qui se passe dans le monde entier, hein, où effectivement, la terre devient matériau, comme la peinture, comme le bronze, etc., qui est utilisé par les artistes. Et je pense que sur Diolfi, il y a eu aussi cette tendance à aller plutôt dans l'objet unique, l'objet travaillé. Et dans la formation, enfin, il y aura une intervention de Marion Boisjol, qui est à la Maison de la Céramique le deuxième jour, et chargée de la formation.
Vous parlez des rencontres, hein, donc c'est le dimanche 24,
voilà,
c'est
d'accord. Ça d'accord. Voilà, donc je pense que c'est dans la formation et aussi bien dans l'esprit du temps.
D'accord, qui a eu ce changement de rapport, en tout cas,
absolument.
À la pratique de la céramique. Alors je propose maintenant, dans les 5 minutes qui nous restent, de parler de l'association. Vous êtes venue particulièrement pour ça, vous, Nadine Fournier-Soubéran. L'association a été créée en 2008, donc elle a plus de 10 ans maintenant d'existence.
13 ans.
13 ans, exactement. Et donc je voulais savoir combien d'adhérents, là, cette année, vous avez pu...
Ah, je sais pas, je pense qu'il y a 120, plus d'une centaine d'adhérents, oui.
Et ça n'a fait qu'évoluer, hein, puisque les chiffres que j'ai trouvés sur votre site, hein, en 2017, on était à 94, et en 2019, on est passé à 115.
Oui.
Donc c'est-à-dire que c'est une association qui finalement attire du monde.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, à venir vous adhérer à...
Eh bien, dès le départ, quand on est arrivé à la retraite à Diolfi, nous avons rencontré Bernard Delpal. Parce que moi, je suis administratrice de l'école de Beauvallon, et Bernard, en arrivant à Diolfi, s'est intéressé immédiatement à la pièce maîtresse, je dirais, de l'histoire de la mémoire de Diolfi, une des pièces maîtresses, l'école de Beauvallon. Il nous a fait part de son projet de créer cette association sur le patrimoine, donc on dit immatériel, invisible. Hein,
c'est l'une des définitions, voilà, de vos missions.
Ouais, voilà, exactement. Et donc, ça nous a, avec mon mari, ça nous a passionnés, et donc nous avons participé à sa création en mars 2018. Et depuis, donc depuis 13 ans, comme on l'a dit, eh bien, il y a eu énormément d'expositions, d'événements, même parutions d'ouvrages sur cette mémoire de Diolfi. Parce que le but de l'association, vous le savez, c'est de conserver la mémoire et de la mettre en valeur aussi. Donc il y a eu beaucoup de travail, notamment sur les archives. Et alors là, je dois le dire, ce qui nous a vraiment enthousiasmés avec Jean-Marc, c'est que c'est une association qui a une crédibilité historique. C'est-à-dire que, comme
du
on l'a dit...
Des gens qui travaillent aussi au sein de PMH.
J'y dirais partie. Alors, les gens qui travaillent, comme nous, qui ne sommes pas historiens, qui ne connaissons rien à l'histoire, mais Bernard Delpal est donc le conseiller historique. Et je dois vous préciser que l'association a été créée en lien avec un comité scientifique qui est composé de 6 historiens de renommée. Hein. Il y a, par exemple, Annette Becker, il y a Dessertine. Et puis, j'oublie momentanément là, mais donc si vous voulez, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'était passionnant, et c'est pour ça qu'on est entré dans cette association, et on y est depuis.
Et vous n'êtes jamais reparti.
On n'est jamais reparti. et cette année, je dois dire que on est passionné par ce projet céramique. Alors on apporte notre petite touche, on fait ce qu'on peut. Jean-Marc travaille
c'est
beaucoup.
C'est mon coéquipier.
Mon mari travaille beaucoup avec Marie-Claude.
Oui, c'est important.
Et c'est une aventure énorme, mais passionnante.
Et donc cette année 2020 n'a pas dû être pour vous non plus évidente, hein, comme pour beaucoup d'associations qui organisent des événements au cours de l'année. Donc j'ai pu voir que, par exemple, votre édition du micro-festival a dû être annulée. Oui. Cette année, est-ce que...
C'est reporté cette année.
Donc ce sera la même thématique, donc qui était le fait religieux contemporain, ou il y a une nouvelle thématique?
C'est la même thématique, les mêmes intervenants, voilà. Oui, oui.
D'accord.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements comme toutes les associations.
Bon, ce qui a été difficile, c'est les contacts avec des gens qui peuvent apporter des archives, des photos, des témoignages. Donc on va repartir sur des entretiens avec des céramistes, potiers ou héritiers, puisqu'il y en a beaucoup qui malheureusement ne sont plus là.
Et pour faire le lien donc avec l'activité qui se tient toute l'année à PMH, et cette exposition qui fait l'objet de cette interview, j'ai pu voir aussi que l'association fait appel aux habitants de Diolfi pour jeter un œil dans leur cave et autres greniers pour savoir s'ils n'auraient pas des petits objets liés à la céramique, des objets faits en céramique de poterie à amener pour contribuer en fait à l'exposition.
Absolument.
Alors ça en est où cette collecte ?
Ça commence, mais pas... Enfin si, on a repéré un certain nombre d'objets chez... dans certaines familles, comme par exemple chez Étienne Noël, il y a une des héritiers, Patricia Carlier qui intervient, qui a une collection absolument magnifique. Ce qu'on voudrait effectivement, c'est montrer des objets qui n'ont pas été vus dans des expositions. Il y a actuellement, enfin il y a en permanence un espace muséal à la Maison de la Céramique. On voudrait s'en différencier en allant plus au plus près, je dirais, des habitants. Qui ne sont pas collectionneurs, qui sont peut-être simplement amateurs de belles céramiques et qui n'ont pas conscience de la richesse de ce qu'ils ont. Voilà, c'est un petit peu notre but, quoi.
Et comment on fait alors si on veut venir apporter l'une de nos céramiques auprès de PMH ?
On demande des photos d'abord.
D'abord des photos.
D'accord. Oui. Puis après on verra, on fera un choix parce que là, elle n'est pas extensible, qu'on aura beaucoup de.
En fait, il y aura beaucoup de pièces, hein,
voilà,
je crois.
Il y a beaucoup enfin surtout des panneaux explicatifs en fonction d'un certain nombre de thématiques. Et donc on mettra effectivement des objets sur des socles ou dans des vitrines s'ils sont très précieux, mais on ne pourra pas en mettre énormément. D'accord. Mais au moins ça aura fait prendre conscience de la richesse que chacun possède chez lui.
De la présence au quotidien de
voilà,
la céramique
absolument.
À Diolfi.
Oui.
Marie-Claude Jeune, Nadine Fournier-Souberan, je vous remercie. Vous faites toutes les deux partie de l'association Patrimoine, Mémoire et Histoire de Diolfi et vous êtes venues nous voir à l'occasion des prochaines rencontres que votre association organise autour de la céramique. Ces rencontres se tiendront les 23 et 24 octobre prochains. Elles s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition de Sillon, mais font aussi lieu de préambule à la grande exposition qui s'intitule « La céramique au pays de Diolfi, une aventure humaine entre tradition et renouveau ». Une exposition qui se tiendra du 15 juillet jusqu'au 31 août, même on peut dire,
pour
avec
certaines,
le château ouais. de Poët-Laval. Pardon. Et c'est une exposition qui se tiendra également à la halle de Diolfi. Vous pouvez retrouver le programme sur le site de l'association ou encore sur sa page Facebook qui, j'ai vu, est toute récente.
Oui.
Parce qu'elle a été créée en 2021, en juin 2021.
Oui.
Je vous remercie encore une fois.
Merci à vous.
Merci bien.
Radiola.media.